Pérolté Citoyen du Monde, un magazine consacré à la solidarité internationale, proposé par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon, avec le soutien du Conseil général de l'Hérault.
Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue le 28e pays de l'Union européenne. Un changement de cap pour ce petit pays peuplé d'un peu moins de 4,3 millions d'habitants et 10 fois plus petit que la France. Plaine, côte, montagne, la Croatie est variée et un de ses climats est méditerranéen. C'est peut-être un des points communs avec le département de l'Hérault qui a tissé des liens avec ce pays de l'ex-république yougoslave. Dans cette émission, nous aurons l'exemple d'un jumelage franco-croate réussi. Nous entendrons parler des différentes missions de coopération décentralisée entre le Conseil général de l'Hérault et la Croatie, qu'il s'agisse de la pêche, du tourisme ou encore des relations plus commerciales. Puis d'une association qui milite pour les échanges interculturels. Et nous terminerons en prenant des nouvelles de nos amis des radios maliennes durement touchées par le conflit. Mais commençons cette émission consacrée à la Croatie avec ce jumelage entre Ogulin et Gignac. En plein cœur de la Croatie, Ogulin est voisine avec la Slovénie au nord et la Bosnie-Herzégovine au sud. Nichée entre lacs et montagnes, la municipalité compte environ 15 000 habitants, dont 75% de Croates et 20% de Serbes. Son développement économique s'appuie en premier lieu sur les ressources forestières qui l'entourent, mais aussi sur le tourisme. C'est en avril dernier que le partenariat entre les deux villes s'est officialisé. Pour Gignac, il s'agit du tout premier jumelage. Un rapprochement qui n'est pas tout à fait dû au hasard, comme nous l'explique Sylvie Contrera, l'adjointe en charge du jumelage.
En 2007-2008, on a été contacté par l'ambassadeur de Croatie en France, M. Marko Galic, qui lui cherchait des points d'ancrage de son pays dans le territoire français au travers d'histoires communes ou d'actions communes. Et donc nous avons un général croate, Mark Slivaric, qui est enterré à Gignac. C'est lui qui nous l'a appris et c'est sur cette base-là que l'échange a commencé.
Alors ça mérite des précisions historiques puisque c'est une amitié lointaine qui a donc permis cette alliance. Mais qui était ce personnage? Quand, combien de temps a-t-il vécu à Gignac?
Donc Mark Slivaric est né en 1762 en Croatie. Il a rapidement orienté vers une carrière militaire et donc s'est retrouvé à se battre en France, aux côtés des Français, aux côtés de l'empereur Napoléon. Donc il est devenu général napoléonien et donc il s'est retrouvé aux côtés du général napoléonien Claparède qui, lui, est originaire de Gignac. Donc à la fin de sa carrière militaire, il n'était pas le bienvenu dans l'Empire austro-hongrois pour s'être battu auprès des Français. Donc il restait en France et est venu terminer sa vie à Gignac, ville d'origine du général Claparède.
J'ai cru comprendre qu'il était enterré ici. Est-ce qu'il a des descendants gignacois?
Non, il n'a pas de descendants gignacois. Par contre, lors de la première commémoration des généraux d'Empire en 2008, sa famille est venue des États-Unis. Donc il a un fils, je crois, aux États-Unis.
Concrètement, quels sont les enjeux directs de coopération pour vos deux communes? Comment ça se traduit et sur quoi ça repose?
Quand nous avons vu que les échanges avec la ville d'Ogulin étaient possibles, cette ville nous a été proposée par l'ambassadeur, justement une ville de taille équivalente à notre ville, un milieu associatif important. Ils ont 47 associations, nous en avons 80. Donc une façon de faire vivre la ville qui semblait correspondre à des envies de continuer ensemble sur des projets communs. Et nous nous sommes déplacés à Ogulin, une délégation d'élus. Des élus d'Ogulin sont venus à Gignac et il y a vraiment, je dirais, des liens d'amitié qui se sont créés avec un accueil très chaleureux de la part du milieu associatif chez eux et réciproquement. Et donc on construit des échanges possibles autour des associations. C'est ce qui nous semble important. Le jumelage n'a de sens. Bien sûr, il est initialement porté par la ville, mais il n'a de sens que si le tissu associatif se l'approprie et s'il donne lieu à des échanges très concrets. Donc la Maison des Jeunes organise un voyage cette année en Croatie, donc ils vont partir 2 semaines à Ogulin. On a eu des contacts avec la ville qui ont voulu faciliter cet échange, qui se propose de loger les jeunes gignacois. Donc l'idée, c'est pour eux de découvrir le pays, la langue, de rencontrer des jeunes là-bas. C'est pas un échange au départ, parce que c'est très difficile de faire venir des jeunes croates en France, j'ai l'impression. Donc bon, on espère tisser des liens et pouvoir faire cet échange plus tard.
Deux membres de la chorale ginacoise Arc-en-Ciel devraient également être du voyage. Ils participeront au festival des chorales d'Ogulin. Malgré la barrière de la langue, les projets sont déjà en train de se concrétiser avec des échanges économiques, sportifs, culturels et citoyens qui seront le reflet de cette amitié. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la coopération décentralisée entre le Conseil général de l'Hérault et la Županja de Split Dalmatie. Les rencontres entre le département et cette région croate ont commencé en 2008 et c'est seulement en mai 2012 qu'une première convention a été signée. Isabelle Bonin, chargée de mission pour la coopération décentralisée, nous indique les orientations et les relations commerciales qui sont visées.
Alors, on avait des accords de coopération qui portaient sur l'urbanisme, le renforcement des capacités dans le domaine de la conception et la gestion de projets européens et le tourisme rural et la qualité dans le tourisme rural notamment. Quand on dit développement du tourisme rural, du tourisme, de l'œnotourisme de qualité auprès des institutions croates, on a aussi en arrière-pensée la capacité que nous pourrions avoir à vendre notre vin et les produits de notre terroir en Croatie. Comment ça va se faire, ça? Peut-être parce qu'on va amener des viticulteurs et des producteurs de produits du terroir à un salon des vins, de la gastronomie, pour ne pas le nommer, le salon Gast 2014. Donc j'ai pour objectif de constituer une délégation de professionnels de l'Hérault pour aller à Split montrer ce qu'ils font, faire déguster leur vin. Parce que la problématique majeure de la Croatie aujourd'hui en matière touristique, c'est qu'ils ont un afflux massif de tourisme sur 4 mois de l'année, en gros, et qu'ils n'ont pas assez de production locale en vin pour alimenter toute cette population. Et ils achètent aujourd'hui du vin dans leurs pays voisins, limitrophes, notamment l'Italie. Bon. On est très très bien placé au niveau de notre production viticole et on pourrait tout à fait imaginer qu'on fasse des échanges à ce niveau.
Nous verrons plus tard qu'un volet pêche et conchyliculture s'est aussi mis en place avec des débouchés économiques, mais on peut évoquer d'autres perspectives comme l'eau.
Le projet pour la Croatie qui concernerait, je dirais, dans un sens plus large, les ressources hydriques, s'inscrit davantage dans un accompagnement des Croates pour amener de l'eau potable dans les îles. La Croatie est composée de 1200 îles, dont 80% d'entre elles n'ont pas l'eau potable. Pour le développement de ce pays, il va devenir essentiel de travailler sur des techniques durables, peu coûteuses, et on va dire des techniques pas trop difficiles sur le plan de la maintenance, pour trouver des moyens d'amener de l'eau potable dans les îles. Nous avons dans l'Hérault des entreprises de pointe qui travaillent sur l'eau, sur les ressources hydriques, que ce soit en approvisionnement en eau, désalinisation, je ne suis pas spécialiste, ça s'entend, abduction d'eau, traitement des eaux, etc. Donc c'est un projet pour le long terme, hein, je dirais dans les années 2014-2016, essayer d'amener des entreprises héraultaises qui travaillent sur ces process et sur ces hautes technologies, mais au service de tous, et de les amener à rencontrer des acteurs de l'abduction d'eau en Croatie.
Une coopération, c'est une relation. Aussi, on peut se demander quelles ont été les difficultés rencontrées.
Une des difficultés de coopération avec la Croatie, c'est la langue. Mais il se trouve qu'ils parlent presque tous anglais, et assez bien, et que nous avons de très bons interprètes ici. Quand ils viennent nous rendre visite, on fait en sorte que l'interprétariat soit en consécutif, et nous avons la possibilité d'aller au fond des choses en parlant leur langue. La Croatie, autre difficulté, c'est un tout petit pays, 4 300 000 je crois. Quand on parle à une région comme Split Dalmatie, on pense qu'on a un interlocuteur qui est régional, qui est grand. Et en fait, c'est une région qui est aussi grande que la ville de Montpellier. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes les rapports de force, les équilibres. Et le dernier point difficile pour eux, c'est qu'ils sont tout nouveaux dans l'entrée dans l'espace européen. Ils n'ont pas encore tout à fait les habitudes que nous avons, nous. Mais on est là, du coup, pour les accompagner.
On l'a entendu, la coopération porte sur le tourisme, le vin, l'eau, mais aussi sur la pêche et la conchyliculture. La Croatie a besoin de se structurer pour satisfaire aux directives et aux marchés européens. C'est ce que nous explique Raymond Farinck, qui est allé en Croatie en 2009 et en novembre 2012, et Stéphane Lobedet, responsable du service port et affaires maritimes au Conseil général de l'Hérault. Ils nous en apprennent un peu plus sur cette coopération.
Il y a toute une restructuration du territoire à voir, repenser leur production, repenser aussi leur commercialisation. civilisation qui, à l'heure actuelle, n'est que sur le marché interne. Il faut faire évoluer les mentalités et expliquer un peu que le commerce international, ça se plie à des règles sanitaires, etc. Voilà, il y a tout un grand pas à franchir avant d'arriver à des actions concrètes.
Quand ils sont venus, on leur a présenté à la fois des entreprises conchylicoles, donc on les a fait visiter les masses, et à la fois le côté pêche avec une visite du port du départemental de pêche du Gros d'Agde, et donc la criée. On les a fait aussi rencontrer des acteurs, donc les structures professionnelles, une coopérative, le comité régional conchylicole, etc. Donc c'est finalement tout ça qu'ils recherchent quand ils viennent, et qu'ils recherchaient en tout cas, mais qu'ils recherchent encore. Et donc l'impression qu'ils nous indiquent a posteriori, une fois qu'ils sont rentrés, c'est qu'ils sont très satisfaits de leur venue, que tout ce qu'ils ont pu voir les intéresse beaucoup, et c'est là-dessus qu'ils sont demandeurs. Puisqu'on revient sur ce qui a été dit, structuration, un modèle de commercialisation qui est une criée, par exemple, pour du poisson, et des modèles de structuration professionnelle, le mode coopératif, etc.
Les Croates ne disposent pas d'une criée. Ils ont été particulièrement intéressés par ce dispositif.
Et ça les intéresse d'autant plus que l'Europe l'impose. Il faut qu'il y ait des points de débarquement pour pouvoir suivre la ressource et qu'elle ne soit pas détruite par trop de pêche. Et donc, eux, à l'heure actuelle, la côte est, en fait, il y a une multitude d'îles et de découpages dans cette côte. Et donc, toutes les infractuosités sont un port de débarquement. Et c'est que de la petite pêche, des très petits bateaux, à part, bon, ils ont des chalutiers qui n'ont rien envié au nôtre, là, par contre. Hein. Mais sur les petits métiers, enfin, la pêche côtière, etc., c'est vraiment de la pêche artisanale et ils vendent au marché du coin. Donc, c'est très difficile en termes de contrôle, aussi bien sanitaire que de protection de la ressource. Et l'Europe impose des regroupements de points de débarquement et passer en criée pour avoir la traçabilité du produit.
Une coopération suppose un échange que nous apportent donc les Croates. Eh bien, tout d'abord, des débouchés commerciaux qui profitent évidemment aux Héroltais.
Ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est des relations commerciales avec des entreprises chez nous qui travaillent déjà avec du produit importé à certains moments de l'année. Donc il y a un certain côté sourcing en termes d'approvisionnement qui est intéressant pour nos entreprises.
Mais il y a aussi des coopérations autour de sujets qui concernent les deux territoires.
On peut tisser des liens de partenariat sur des techniques de production, des techniques de protection contre les prédations, des coquillages par les poissons, ce genre de choses. Quand on est plusieurs concernés par un même problème, est-ce qu'il y a le cas par exemple pour la prédation des dorades sur les coquillages, hein, par exemple, on peut monter des projets de travail internationaux, enfin voilà, financés par l'Europe, etc. Donc c'est aussi un intérêt pour nous que d'avoir des partenaires européens qui justifient d'un même problème que nos professionnels et donc ensemble de monter des programmes qui permettent de trouver des solutions.
Depuis son arrivée dans l'Hérault en 2008, Nicoleta Guliemovic n'a de cesse de promouvoir sa culture. En mars 2012, elle fonde l'association Les Amis de la Croatie, un moyen pour elle de relier les deux pays et de présenter sa terre natale. Échange interculturel, découverte du patrimoine ou de la gastronomie, les axes de valorisation sont multiples. Mais qui sont les ressortissants croates et combien sont-ils sur Montpellier? C'est la question que nous lui avons posée.
Il y en a, je dirais, une vingtaine. Il y a beaucoup de sportifs croates qui sont venus ici pour travailler en tant que sportifs professionnels, en water polo surtout, handball aussi. Il y en a pas mal donc dans ce domaine-là. Après, il y a des ressortissants croates qui sont là depuis un moment, depuis des années 60, puisqu'il y avait une grande vague d'émigration dans les années 60 des pays de l'ex-Yougoslavie, y compris la Croatie. Donc il y en a qui sont venus ici avec leur famille, mais qui parlent encore croate et ils sont très intéressés par les activités de notre association. Après, il y a des étudiants.
Le 1er juillet prochain, la Croatie doit devenir le 28e État membre de l'Union européenne. Que représente pour vous cette adhésion?
Je pense que c'est le moment que les Croates et tous les politiciens croates attendaient depuis un moment. C'était le but depuis la formation de l'Union européenne et de la Croatie en tant que pays indépendant. Et voilà, je pense que tout le monde est content qu'enfin on va faire partie de l'Union européenne. Après, les avis sont partagés un peu en Croatie aussi, parce que c'est normal, il y a toujours des pros et des contre. Il y a des gens qui font déjà partie de l'Union européenne, des pays qui font déjà partie de l'Union européenne, mais il y a des personnes qui sont peut-être pas tout à fait pour l'Europe. Donc c'est normal, je pense qu'il y a toujours des pros et des contre.
Justement, pour notre territoire et pour votre association, est-ce que ça va avoir une incidence directe? Est-ce que ça peut faciliter notamment des échanges ou des rapprochements à terme?
Je pense que oui. C'est toujours plus facile, en fait, faire partie de l'Union européenne pour les différents types d'échanges, pour les voyages, pour les visas étudiants, par exemple. Les étudiants croates qui veulent s'inscrire à l'université ici en France n'auront plus besoin de visa.
Parmi vos multiples activités, il y a la volonté d'enseigner la langue croate. Alors, on dit souvent que le slave est une langue un peu colorée. Est-ce que c'est complexe à assimiler?
Oui, le croate, comme toutes les autres langues slaves, c'est un peu compliqué pour les Français, je pense. Il y a la grande différence entre le français et le croate, c'est que c'est une langue slave, c'est pas une langue romaine. Après, il y a aussi en fait des déclinaisons, pareil comme dans le latin par exemple, ce qui peut être aussi un peu compliqué pour les Français. Mais quand même, les élèves qu'on a eus jusqu'à maintenant, ils trouvent le temps de travailler et ils se sentent bien quand ils peuvent dire des phrases même simples, par exemple se présenter ou Dobardan, bonjour. Après, je m'appelle, on dirait Jace Zovem. Sinon, je peux vous présenter notre association en croate. Les amis de la Croatie, je suis Udruga koja je osnovana 2012. godine u Montpellieru. Za sad broji nekih 10-15 članova, ali širi se, imamo također i Facebook grupu sa puno članova, tako da nadamo se razvijanju daljem naše udruge.
Alors, le volet culturel, c'est également très très important. Vous avez par exemple aidé des artistes venant d'ici à se produire en Croatie?
Oui, on a essayé en fait, on a eu un contact avec un groupe montpelliérain qui en fait a fait une tournée européenne. Dans le cadre de cette tournée, ils voulaient aussi jouer en Croatie. Du coup, on les a aidés, on a contacté les bars, les salles croates, et du coup, ils ont joué, en fait, ils ont eu un concert à Zagreb, la capitale.
On parlait tout à l'heure des échanges, quelles sont justement les prochaines actualités pour vous?
On essaye de trouver une salle ou un endroit qui serait prêt d'organiser un petit événement lié à l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. On voudrait en fait présenter la musique classique croate, parce qu'on est en train de collaborer avec une association croate qui fait en fait des spectacles musicaux théâtrales en présentant dans un mode différent la musique classique croate. Et on voudrait trouver une salle avec un piano qui voudrait bien présenter ce genre de spectacle. Pour octobre ou novembre, ce serait idéal.
L'association Les Amis de la Croatie, en partenariat avec l'Alliance française, planche également sur un projet d'édition. Il s'agit d'un livre pour enfants présentant Dubrovnik. Terminons ce Herolte citoyen du monde en prenant des nouvelles des radios du Nord-Mali qui étaient prises dans le récent conflit. Certaines radios étaient fermées, d'autres aux ordres des rebelles. Avec Daouda Mariko, président de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, on apprend notamment que l'opération Serval a permis de remettre du courant dans certaines radios qui peuvent émettre à nouveau.
Actuellement, la situation des radios maliennes au nord s'apparente à celle de la situation d'ensemble du pays. Donc, nous sommes à une période de reprise des villes occupées. Donc, les radios qui sont dans ces zones vivaient des situations diverses. Il y avait certaines radios qui ont été carrément saccagées. D'autres avaient fermé du fait de l'insécurité parce qu'on avait peur pour les agents. D'autres sont restés en train d'émettre, mais se sont pliés aux exigences des occupants, c'est-à-dire les djihadistes et puis les gens du Moujahid en Sardine, pour changer leur ligne éditoriale, parce que dans certaines radios, on était obligé d'ouvrir la radio par la lecture du Coran. Il y avait certaines formes de musique qui n'étaient pas autorisées. Donc les radios, certains directeurs ont accepté de se soumettre à ces exigences-là pour émettre le minimum possible en vue de ne pas sévrer la population du signal de la radio. Donc aujourd'hui, nous avons une reprise qui est constatée parce que celles qui avaient fermé ont commencé à émettre, évidemment avec des problèmes. Et pour ce faire, je voudrais saluer l'appui de certains partenaires dans le cadre de la formation, mais aussi de l'équipement. Je vais parler de l'opération Serval, qui, à la date d'aujourd'hui, a équipé des radios de la ville de Gao. Et je pense qu'ils sont dans la disposition de pouvoir appuyer la relance des radios au nord et les partenaires. Donc, c'est à cela que nous assistons. Le 21 juin, tout près, moi, j'ai quitté Gao. Nous étions là-bas dans l'état d'une formation et d'une visite aux radios. C'est vrai que la situation est difficile, mais les radios sont en train d'émettre pour accompagner les mouvements de reprise de la vie au niveau de ces régions-là. Donc, on peut dire que les radios ont repris les émissions, mais avec des difficultés. Mais dans les localités où les radios ont été saccagées, faute d'appui extérieur, ces radios restent fermées, il n'y a pas d'émissions. Et dans certaines situations, il y a le personnel qui a dû quitter les localités pour se réfugier ailleurs. C'est le cas de la radio Sony dans Sango, où nous avons un certain nombre d'animateurs qui se sont retrouvés au Niger. Et nous avons des cas comme ça. Nous avons à Pamba, à côté de Gao, la radio qui a été aussi complètement saccagée parce que dans cette localité, les djihadistes ont logé dans la radio en quittant. Ils ont enlevé, ils ont détruit tous les systèmes. Donc, c'est comme ça la situation qui se présente au niveau des radios actuellement.
Ainsi s'achève Erolte, citoyen du monde spécial Croatie, une émission réalisée conjointement par Mélanie Charpentier de Radio Clapas et Vincent Pourageau de Divergence FM.
C'était Erolte, citoyen du monde, un magazine consacré à la solidarité internationale, proposé par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon, avec le soutien du Conseil général de l'Hérault.